Les Balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, le centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, vous propose aujourd'hui un épisode de la série Pop en stock transatlantique.
Chers auditeurs et auditrices, chers popophiles, popophages et popovores de tout poil, nous voici donc réunis pour une nouvelle itération de notre podcast Pop en stock dans sa nouvelle formule transatlantique et zoomesque qui nous permet encore une fois de faire le bond au-dessus de l'océan et de retrouver des amis et chers collègues de l'autre côté de l'Atlantique. Nous recevons aujourd'hui autour de la série qui est en train de renouveler le space opera autant dans son versant littéraire que dans son versant télésériel. Nous recevons Hélène Machinal que nous avons eu le plaisir et la chance d'avoir récemment autour de la parution de son tout récent ouvrage posthumain en série « Les détectives du futur ». Et justement, il y en a un très important dans « The Expanse » dont elle va nous parler aujourd'hui. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être à nouveau parmi nous. Toujours dans l'émission, donc à la barre, Hélène Després, grande spécialiste aussi de science-fiction, avec sa thèse qui a été publiée autour de la figure des savants fous, évolution d'une figure de l'éthique. Nous recevons aussi avec grand plaisir notre grand collègue Bertrand Gervais, professeur à l'UQAM, depuis 2015 titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les arts et les littératures numériques. Je pense qu'on ne présente plus Bertrand Gervais, grande figure, autant spécialiste des théories de la lecture, de l'imaginaire de la fin, de l'imaginaire contemporain lato sensu au sens large, créateur parmi autres de Figura, de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, du dictionnaire visuel Google, de la revue Bleu Orange, etc. Et nous tenons tout particulièrement à le remercier puisque son appui a été décisif et fondateur pour Pop en stock. C'est grâce à lui que nous avons pu notamment développer la page web et finalement l'ancrage de toutes les activités qui s'en sont suivies grâce à un autre de ses créations, le NT2, donc consacré à la promotion, à l'étude des formes numériques, des textes et des arts. Merci beaucoup Bertrand et merci d'être là. Merci. Aujourd'hui. Merci aussi à Jérémy Cornec, donc doctorant à l'UBO de Brest, qui travaille actuellement sur une thèse sur les séries science-fictionnelles. Alors Jérémy, merci d'être là. Et est-ce que The Expanse fait partie de ton corpus ?
Alors, donc bonjour et merci à vous de m'avoir invité. Alors oui, tout à fait, The Expanse fait partie de mon corpus et Elle sert un peu de représentante pour les séries de space opera notamment parce que, bah, comme ça a été souligné, c'est vrai que c'est une série qui renouvelle quand même grandement ce genre.
Oui, tout à fait. Pour introduire très rapidement, en tout cas pour ceux et celles qui seraient en train d'écouter pour une sorte d'introduction à l'univers de The Expanse, c'est à l'origine un projet donc littéraire de deux auteurs, donc Daniel Abraham et Ty Frank, qui vont signer sous le pseudonyme de James S. A. Corey. Et il y a une histoire assez quand même intéressante dans la généalogie qui a été tracée par Andrew Liptak dans un article sur le blog de Barnes & Noble, Evolution of a Space Epic, James Corey's The Expanse, où il retrace finalement toutes les différents fils qui ont mené à la création de cet univers. On est vraiment face à un de ces world buildings, donc de construction de monde qui est en expansion, comme le titre lui-même de la saga. Au début, initialement, Ty Frank avait travaillé sur un projet de jeu multijoueur, donc à l'époque où World of Warcraft commençait à avoir un immense succès, donc au tournant du millénaire. Et c'est dans ce premier cadre donc ludique, voire éventuellement vidéoludique, puisque c'est un projet qui n'a jamais vraiment abouti comme sous sa première mouture. Et il y a cette idée très claire de la construction d'un univers. Et d'ailleurs, on reconnaît un peu le principe des factions de World of Warcraft et autres jeux multijoueurs. Et suite à l'échec, finalement, de la création de la franchise sous une forme vidéoludique, et numérique, Ty Frank ne va pas totalement abandonner ce monde. Il va en faire plutôt un jeu de rôle avec ses amis. Et c'est autour de ce jeu de rôle que l'univers va commencer à prendre vie, à s'animer, et avec quelques particularités. Une des particularités, c'est que ces amis-là, ça va être nul autre que le groupe connu comme The New Mexico Critical Mass, c'est-à-dire un groupe d'auteurs, d'autrices de science-fiction du Nouveau-Mexique, dont la figure devenue la plus célèbre, non pas dans la science-fiction, mais dans la fantasy, c'est George R.R. Martin. Et effectivement, ce n'est pas n'importe qui, et le fait d'embrigader ces auteurs, certains très connus, d'autres moins, mais le fait d'embrigader ces auteurs autour de la construction d'un monde collectif va donner une autre dimension à cet univers en gestation. Et c'est à travers de ce moyen que Ty Frank rencontre Daniel Abraham, qui lui est déjà un auteur justement dans l'orbite de ces autres évoqués, qui lui a déjà écrit de la fantasy notamment, et qui va être séduit par cet univers et se dire il faut en faire un roman. Or, il y a une sorte de loi non écrite dans la science-fiction, nous rappelle Liptak, qui est « ne transforme pas ton jeu, ta campagne de Dungeons & Dragons en roman ». C'est comme une sorte de loi d'éviter, parce que le truc qui semble très rigolo et super passionnant dans une table, autour d'une table avec ses potes, etc., peut ne pas être aussi intéressant pour les lecteurs implicites d'un roman. Donc, première loi. Deuxième loi, c'est qu'on est à un moment où, bizarrement, le vent a tourné un peu contre le space opera. Il y a quelque chose un peu de bivalent. Il y a d'un côté un space opera très militariste qui s'est développé dans les années 90 et qui a été marqué comme une sorte de réinvention du genre. Mais d'un autre côté, et Martin lui-même en est le bon exemple, le marché serait plutôt du côté de la fantasy dans ce tournant très, très précis. Donc, plusieurs personnes aussi déconseillent de poursuivre cette tâche. Les deux auteurs vont persévérer et il va y avoir un travail vraiment intéressant à deux, ce qui est une pratique assez courante dans la culture populaire, dans la littérature populaire, depuis le 19e siècle au moins, et particulièrement dans l'univers de science-fiction. Alors, le fait que nous avons le monde qui a été très détaillé sur des longues années par Ty Frank et d'un autre côté, le regard d'un romancier plus mainstream, si l'on veut, ou qui connaît mieux les rudiments de la littérature de genre, va créer peut-être cette hybridation qui va faire le charme de The Expanse. Par ailleurs, la figure tutélaire de Martin, dont Frank a été l'assistant personnel pendant quelques années, est elle aussi très importante, puisque, évidemment, des nombreux parallélismes ont pu être créés avec la saga de Game of Thrones, et Martin lui-même, en donnant un coup de poil à son protégé, corroboré ou validé cette sorte de complicité, et notamment l'aspect très géopolitique, l'expansion constante des univers. À chaque nouveau roman, on découvre un pan différent de l'univers qu'on croyait déjà bien connaître. Des nouveaux personnages de plus en plus inquiétants s'immiscent dans l'histoire. La grande menace qui pèse sur cet univers est une menace, elle aussi, très incompréhensible et qui défie les lois admises. Les personnages sont extrêmement importants, extrêmement nombreux aussi. Enfin, il y a beaucoup d'aspects qui montrent qu'effectivement, le lien un peu avec ces univers qui sont devenus, grâce à l'impact de Martin, une sorte de nouveau paradigme, un nouveau template pour la création des littératures de l'imaginaire. Le succès des romans va entraîner donc une série télé qui va être sauvée in extremis par Amazon Prime pour sa continuation, Syfy n'étant pas très sûr des résultats, et donc une série qui se continue et qui a annoncé sa dernière saison apparemment, donc contrairement au roman. Nous avons là quelque chose d'assez différent à ce qui s'est passé avec Game of Thrones, où les séries ont dépassé l'univers romanesque initial. Ici, c'est les séries qui vont finir avant d'épuiser les romans, qui eux continuent de plus belle. D'ailleurs, le prochain est annoncé pour novembre prochain, si je ne me trompe. Donc la saga est tout à fait vivante, d'autant plus qu'elle est en train de se ramifier par plusieurs novellas, des prequels, etc. etc. Donc voici un petit peu le cadre général pour cet univers qui est quand même extrêmement foisonnant, extrêmement là, qui touche à une quantité de questions et que nous allons essayer de décortiquer un petit peu pour vous. Donc, on va commencer par Jérémy qui va nous parler un petit peu de la géopolitique qui entoure cet univers particulier des Belters, donc ceux qui se retrouvent dans les coins les plus reculés de l'univers initial, puisque cet univers lui-même va être exponentiellement étendu par la suite de la saga.
Tout à fait. Comme ça a été souligné, en fait, je pense que les trois grandes factions qu'on peut distinguer, en tout cas au début de la saison 1 dans l'univers fictionnel de The Expanse, ce sont la Terre, Mars et la Ceinture. Et donc, la colonisation de la Ceinture s'est effectuée approximativement 150 ans avant le présent narratif de The Expanse pour pallier la disparition de ressources sur Terre. Une fois sur place, les ceinturiens se sont retrouvés à la merci des terriens, puisque dépendants de ces derniers pour leur survie. Aucune considération ne leur est accordée, et la première phrase prononcée par un ceinturien dans la série dévoile d'ailleurs immédiatement aux spectateurs la position de la ceinture dans la hiérarchie sociale de l'univers fictionnel. Alors j'ai la citation en anglais, mais je peux la traduire si nécessaire. « No matter who controls Ceres or whom, to them we will always be slaves. That's all we are to the earthers and dusters. » They built their solar system on our backs, spilled the blood of a million of our brothers. But in their eyes, we're not even human anymore. So the next time you look in the mirror, say the word, slave. Les Terriens et les Martiens considèrent que les Belters ont perdu leur humanité lorsqu'ils ont quitté leur planète respective pour vivre et travailler sur la ceinture, impliquant l'idée que l'identité humaine est finalement définie par l'attachement géographique à ce qu'ils considèrent être une vraie planète. Cette déshumanisation des ceinturiens est renforcée par un second aspect qui fait évoluer la discrimination et l'inscrit un peu plus encore dans une idéologie spéciste et raciste. Les ceinturiens ne sont plus considérés comme des êtres humains en raison des transformations qu'ils ont subies. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur les transformations parce que Hélène va en parler, mais je vais plutôt juste mentionner les causes et les conséquences en fait de ces transformations. Ces évolutions physiques sont introduites aux spectateurs comme résultant de l'absence quasi totale de gravité sur les différentes stations qui composent la ceinture. L'évolution est présentée ici comme un effet secondaire, comme quelque chose de négatif qui n'améliore pas l'être humain, mais au contraire l'affaiblit. L'évolution de l'espèce est ici non dirigée et l'être humain devient un presque humain, pour reprendre Thierry Hockey. Ces modifications sont perçues comme des dégénérescences qui les excluent des normes de l'espèce humaine. L'absence de gravité est une faiblesse pour les ceinturiens. Ils ne courent aucun risque tant qu'ils se trouvent sur la ceinture, mais peuvent mourir s'ils sont trop longtemps exposés à la gravité terrestre. Cette contrainte restreint leur liberté et les déshumanise encore davantage. Alors que les Terriens et les Martiens peuvent se rendre sur la ceinture sans subir d'effets secondaires, les ceinturiens, eux, ne peuvent quitter leur aire géographique, le seul endroit dans le système solaire adapté à leur morphologie. Cette faiblesse est d'ailleurs utilisée par les Terriens, comme on peut le voir dans l'épisode pilote de la série. Lorsque Chris-Jen Avassala, vice-secrétaire députée des Nations Unies, soupçonne un ceinturien d'être un terroriste, elle utilise la gravité terrestre pour torturer le supposé criminel. Il est maintenu debout par des crochets fixés au mur et subit les effets secondaires de la gravité. Il ne porte qu'un sous-vêtement. Et ce détail peut permettre en fait aux spectateurs de constater la différence corporelle entre un humain de la Terre et un ceinturien. Grâce à la nudité de ce dernier, le spectateur prend en compte la grandeur, la maigreur, mais aussi la faiblesse du ceinturien lorsqu'il est confronté à l'environnement terrestre, pourtant son biome d'origine. Chris-Jen Avassala le décrit comme un être fragile, sans résistance, en témoigne ses mots lorsqu'elle le torture. « I'm sorry that the gravity of a real planet hurts, but it's appropriate. You wish to hurt Earth.
the earth that is now crushing your will, your weak bell to lungs and your fragile bell to bones. All you have to do to make it stop is talk. A whisper will do if that's all you can manage. Kristjen Navasarala commence son discours en parlant de la planète Terre comme d'une vraie planète. Indirectement, elle sous-entend donc que l'habitat des ceinturiens, puisqu'il est créé et ou modifié pour être habitable, n'est pas aussi prestigieux. Elle rabaisse constamment l'homme qu'elle torture, notamment en soulignant que la gravité terrestre le fait souffrir. Elle utilise le mot « faible » pour décrire les poumons et les os du ceinturien. Elle émet alors un jugement de valeur sur la condition physique des habitants de la ceinture. Elle les présente comme une sous-espèce de l'être humain, puisqu'ils ne peuvent pas vivre sur Terre. Et si on se réfère à la classification des presque humains que j'ai mentionné, proposée par Thierry Hoquet dans son article Cyborg, mutant, robot, etc., les ceinturiens semblent se fondre parfaitement dans la catégorie bétail. Je cite, bétail, rapport à l'humain, sous-humain, caste instrumentalisée par l'humain et dénié de tous ses droits. Idéal visé, valeur incarnée, assouvissement des besoins humains comme maître et possesseur. Risque associé, exploitation, perte d'identité. L'exploitation et la perte d'identité évoquées par Thierry Hoquet sont en fait les principaux maux dont souffrent les Belters. S'ils se rebellent pour demander de meilleures conditions de travail et de vie, ils se retrouvent à court d'eau et d'oxygène. Les ceinturiens sont donc coincés dans un cercle vicieux de désir d'indépendance, de reconnaissance identitaire et de considération, et de dépendance envers des entités qui les leur refusent. À force d'être dénigrés par les deux puissances qui dirigent le monde fictionnel de The Expanse, les ceinturiens ressentent le besoin de se créer leur propre identité. Ils ne sont plus des êtres humains lambda, mais des ceinturiens, des Belters dans le texte original, avec leur propre langage et leurs caractéristiques physiques. Et on retrouve cette idée que souligne d'ailleurs, j'ai pris en exemple Laurence Dayan-Gaïda dans son article « Le corps flux de la communauté à venir, la colonie de Boostros », on retrouve l'idée du rejet des êtres humains par les sociétés déjà en place, et ce rejet pousse ces derniers à se créer leur propre identité, quitte à régresser en ce qui concerne l'organisation sociétale et quitte à tomber dans un néo-tribalisme. Ils se regroupent et se considèrent tous comme des frères appartenant à la même famille. Ils acceptent leur nouvelle identité de ceinturien, tout en maintenant l'idée qu'ils sont également humains. Et cette construction d'identité passe principalement dans la série par la création d'un langage propre aux habitants de la ceinture. Ils parlent couramment anglais, mais également le Belter Creole, ou créole ceinturien, une langue propre aux colons. Cette langue, développée sur le motif du palimpseste, est un agrégat de plusieurs langues déjà existantes. La langue est principalement dérivée de l'anglais, mais se nourrit des contributions de l'allemand, du français, des langues slaves, du chinois et des langues bantoues. Le créole ceinturien inclut également des gestes associés à des idées, ce qui permet de s'exprimer sans parler. Ainsi, lever le poing veut dire oui, alors que poser le majeur et l'index sur la poitrine de l'interlocuteur signifie merci. Le spectateur peut reconnaître aussi dans le Belter créole des mots existants venant de langues qu'il connaît ou non. Nous retrouvons par exemple plusieurs mots français qui ont gardé leur sens d'origine, comme les mots chapeau ou copain. Les ceinturiens ont utilisé des langues propres à la Terre malgré l'absence de reconnaissance de leur humanité pour à la fois revendiquer leur appartenance à l'espèce humaine, mais également pour reprendre le contrôle de leur identité Belter et transformer la vision négative des autres planètes en un aspect constructif et essentiel dans leur quête identitaire. Un terrien qui n'a jamais vécu sur la ceinture ne comprend pas le créole ceinturien, ce qui devient un atout pour les Belters dans ce monde en perpétuel conflit entre les différentes entités. Ils peuvent ainsi communiquer entre eux et affirmer leur identité face à des terriens et ou des martiens qui ne sont plus en mesure de les comprendre. Aussi, ces derniers, en déshumanisant les colons, n'ont fait que renforcer leur volonté d'indépendance. Et pour conclure, j'aimerais juste souligner que le motif du palimpseste n'apparaît pas que dans la langue des ceinturiens. Leur apparence participe également à la construction d'une identité forte. Ils ne possèdent pas d'uniforme et privilégient les vêtements qu'ils peuvent s'offrir, faisant cohabiter des influences vestimentaires aux antipodes les unes des autres. Leur coupe de cheveux revisite de manière excentrique les classiques terriens et martiens, ajoutant de l'originalité au personnage. Enfin, ils se couvrent le corps de tatouages tribaux ou futuristes pour exprimer encore un peu plus leur volonté de se différencier des habitants des autres planètes, mais aussi et surtout pour renforcer leur identité collective. Car, comme le souligne un ceinturien dans l'épisode « Remember the Kent », c'est par une identité collective forte et le sentiment de ne former qu'un seul peuple que les habitants de la ceinture pourront enfin se révolter.
Oui, tout à fait. Dans cette initiale tripartition, donc entre une Terre surpeuplée, dévasté par un désastre écologique, entre Mars en plein processus de terraformation, les Belters se retrouvent comme une sorte de prolétariat de l'espace par rapport à ces deux superpuissances. Et un des personnages qui incarne à la fois l'univers des Belters, à la fois aussi la complexité des allégeances dans cet univers en perpétuel conflit, c'est Miller, dont Hélène, tu voulais nous parler.
Oui, je voulais vous parler effectivement aujourd'hui de Josephus Miller, qui est à mon sens sans doute pas le personnage le plus intéressant, mais sans doute un des personnages clés de cette série. Donc, pour rebondir sur ce que Jérémy vient de dire, c'est effectivement un personnage qui est un ceinturien, qui est orphelin, originaire de Cérès. Il est aussi détective et il travaille donc au départ dans la première saison pour une entreprise privée qui s'appelle Star Helix Security. Et ça, c'est important bien sûr parce que c'est une entreprise dont Jules-Pierre Mao est l'un des actionnaires. Donc ce détail bien sûr est important parce que du coup, Miller est d'emblée rattaché d'une certaine manière à certains intérêts de la planète Terre, ce qui implique aussi pour lui immédiatement une position discutée par les Belters qui, comme Jérémy vient de l'expliquer, s'opposent à la position dominante des Terriens. Alors, ce qui est aussi intéressant avec Josephus Miller dans ses premières apparitions, c'est qu'il est très clairement calqué sur le personnage du détective de série B, comme on peut en croiser chez Chandler, chez Hammett. Donc, une sorte de nouveau Philip Marlowe de l'espace intergalactique plutôt que des décors urbains états-uniens. Il porte d'ailleurs un chapeau, qui est le chapeau en fait de son ami Sema Timba, un couvre-chef qui évoque aussi Marlowe et qui l'arbore en signe de défi vis-à-vis des Belters et de leur rejet de la Terre. Donc il s'intéresse surtout dans un premier temps à ses intérêts personnels, mais il va rapidement être impliqué dans la lutte interplanétaire pour contenir la protomolécule qui menace donc l'ensemble de la galaxie. Et c'est son enquête sur la disparition de Julie Mao, qui est par ailleurs une sympathisante de l'OPA et la fille de Jules-Pierre Mao, pardon, qui va le rapprocher de l'équipage des héros de la série, donc l'équipage du Rocinante. D'autant qu'il va assez rapidement être destitué de ses fonctions, parce qu'il s'approche en fait un peu trop de la vérité, et dans le même temps, il va aussi tomber amoureux de la victime sur laquelle il enquête, c'est-à-dire Julie Mao. Donc, on va avoir donc dans la saison 2 une mort que je mets entre guillemets, parce qu'on va voir que le personnage fait retour. Donc, une mort de Miller qui va aussi donner lieu à, je pense, l'une des plus belles scènes d'un point de vue esthétique de la série, lorsqu'il se retrouve sur Eros. Il retrouve donc sur Eros une entité qui est une hybridation en fait entre la protomolécule et Julie Mao. Donc cette hybride contrôle la planète Eros et est en train de la diriger vers la Terre et donc sur le point de provoquer un nouveau cataclysme. Donc c'est Miller qui va la convaincre de changer la trajectoire vers Vénus et il va ensuite disparaître et censément mourir avec elle donc à la fin de la saison 2. Alors, ce qui me paraît particulièrement intéressant, c'est qu'il va ensuite faire retour. Et c'est ça qui est, je pense, intriguant dans cette série, parce qu'il va faire retour tout d'abord sous la forme d'un hologramme, mais un hologramme qui n'apparaît qu'à Holden dans les séries 2 et 3, ce dernier ayant lui aussi été irradié par la protomolécule. Et donc, il va devenir, dans la série, à partir de ce moment-là, être appelé « The Investigator ». Donc, il devient une nouvelle figure ou une mutation de la figure de l'herméneute et il va se redéfinir comme, donc je cite, « a non-local quantum hologram » qui aide Holden donc, dans sa recherche de la protomolécule et dans son souhait d'essayer de l'empêcher de poursuivre son entreprise de destruction. Donc là encore, le personnage est complexe pendant toute cette phase où il est un hologramme, parce qu'il est à la fois présent et absent. Il passe la majeure partie du temps où Holden le voit à murmurer des phrases qui ne font souvent pas sens du tout, comme « There are no laws on Sirius, just cops » ou alors « 113 times a second ». Il est en fait toujours en partie contrôlé à ce moment-là par la protomolécule qui efface ses souvenirs d'une apparition à l'autre. Mais son contact avec Holden le pousse encore et encore à tenter de s'émanciper de ce contrôle de la protomolécule. Il précise en fait alors à Holden, qui s'étonne de ne plus le voir avec son pardessus et son chapeau, qu'il n'apparaît avec ses accessoires que lorsqu'il est sous le contrôle de la protomolécule. Donc, dans sa résistance à la protomolécule, il n'est donc plus conforme à cette image, à cet archétype du private eye. Il se défait des accessoires iconiques du genre littéraire auxquels il était tout d'abord rattaché. Alors, ce qui est aussi important, je pense, c'est qu'on retrouve avec Miller, Belter d'origine, hein, le motif d'une figure du post-humain désincarnée, en quête de définition de soi et cherchant à regagner son libre arbitre. À la fin de la saison 4, il va être l'un des instruments de la victoire, temporaire bien sûr, sinon il n'y aurait plus de série, l'un des instruments donc temporaires de la victoire sur la protomolécule, en se réincarnant cette fois-ci dans un corps de métal. Donc Miller est un post-humain complexe qui passe de la désincarnation de l'hologramme à l'incarnation robotique, de sorte qu'il reste une figure de l'incomplétude, de l'entre-deux, mais il incarne néanmoins une résistance au pouvoir de contrôle et de domination de la protomolécule. Dans la saison 5, il n'est plus que mentionné, hein, dans l'épisode 3, il est mentionné par la phrase suivante, « Human consciousness simulated by alien biotech ». Ce qui n'est qu'en partie vrai, hein, c'est vrai lorsqu'il est sous contrôle, mais ça atteste aussi du fait que l'humain, ce qui pour certains le définit, soit la conscience de soi, peut devenir une simulation créée par une entité biotech qui le dirige. Donc Miller, et je finirai avec ça, pousse bien plus loin finalement la dynamique de métissage qui est aussi centrale, hein, dans la série, la dynamique de métissage incarnée par l'équipage du Rocinante. Contrairement à Julie Mao, qui est une hybridation humain-biotech, il symbolise la complexité humaine, la résistance au contrôle du biotechnologique, mais il reste entouré d'une aura de mystère et d'inconnu, indissociable de la protomolécule, qui demeure l'entité centrale de l'arc macroscopique de la série, en tout cas au terme de la dernière saison.
Oui, c'est un des grands thèmes qui sous-tend la série, que Hélène va nous analyser sous l'angle justement des paradoxes de l'évolution, voire post-évolution, qui sont reflétés à l'échelle même de la série.
Oui, merci, Daniel. Oui, Expanse est effectivement un space opéra dans un nouveau genre, mais c'est aussi de la hard SF, puis c'est aussi la SF réflexive, comme Hélène l'a mentionné. Je pense qu'il y a plusieurs couches qui en font justement une excellente série. Je pense que du pur space opéra aujourd'hui serait peut-être un peu difficile à prendre. Mais donc, contrairement à la plupart des séries de SF depuis les années 60, hein, de Star Trek et jusqu'au plus récent d'ailleurs, The Expanse montre l'extrême fragilité des corps humains dans l'espace. Donc, c'est un aspect qu'on n'a pas encore abordé tellement. Un peu Jérémy quand même. Mais pas seulement des Belters, mais des corps en général. Moi, c'est ce qui va m'intéresser. C'est donc, malgré les vaisseaux aux technologies hyper avancées, malgré les implants, les armures, les corps manquent constamment d'air. Ils sont gelés. Ils sont écrasés par la gravité. Ils sont irradiés, ils manquent d'eau. Donc, je pense que Battlestar Galactica a sans doute ouvert la voie à ces thématiques-là au début des années 2000, qui sont assez rarement abordées en science-fiction, en fait. Il y a d'ailleurs pas mal de similitudes entre Battlestar Galactica et la série, mais on pourrait peut-être y revenir plus tard au besoin. Mais donc, ce sont dans les deux cas, pour moi, des space opéras de survie. Donc, avant même la démonstration de force et les enjeux politiques. La survie individuelle et collective est au cœur du tissu narratif, en particulier des récits épisodiques, donc plutôt que le macro-récit, donc en particulier dans les saisons 1 et 5, mais pas seulement, plutôt que justement des macro-récits, alors que dans Battlestar Galactica, par exemple, c'était le cas, la survie de l'humanité, c'est l'enjeu de la série complète. Alors que là, ici, la survie, c'est la survie individuelle qui se joue dans chaque épisode, qui se joue à chaque moment. Parce qu'il est plutôt un enjeu individuel de tout moment, quand on est un corps humain dans l'espace, les différentes formes d'adaptation apparaissent constamment à l'écran. Mais qu'est-ce que ça veut dire s'adapter à un environnement sans air, glacial et sans gravité? Si on en croit la cybernétique, ça signifie conserver l'homéostasie des corps, ou plus simplement dit, conserver des niveaux constants d'oxygène dans le sang, de température, d'eau dans les cellules, etc., malgré les variations extrêmes d'environnement. D'ailleurs, ça nous ramène, la série nous ramène très efficacement à l'idée même du cyborg, celle qui a été énoncée en 1960 par Manfred Kleins et Nathan Klein dans la revue Astronautics, donc qui ont imaginé le cyborg pour la NASA, pour imaginer l'exploration spatiale à son origine même. Donc, je les cite dans leur article de 1960, « Space travel challenges mankind not only technologically, but also spiritually, in that it invites man to take an active part in his own biological evolution. Scientific advances of the future may thus be utilized to permit man's existence in environments which differ radically from those provided by nature as we know it. The task of adapting man's body to any environment we may choose will be made easier by increased knowledge of homeostatic functioning, the cybernetic aspects of which are just beginning to be understood and investigated. » Et ils continuent dans cette même mode. Donc, pour eux, c'est une évolution à la fois biologique, mais aussi spirituelle de l'humain. Alors que c'est deux ingénieurs qui écrivent pour la NASA dans une revue d'astronautique. Évidemment, dans la série, tous ces enjeux-là sont constamment mis de l'avant. Les corps s'adaptent, les corps ont été adaptés de multiples façons à ces enjeux-là. Évidemment, l'air, c'est le plus important. Sa rareté ou son absence est un enjeu de tous les moments dans la série. On mesure l'air en minutes lorsque les personnages se retrouvent sur des vaisseaux transformés en radeaux de survie constamment. Donc, on décide qui vit, qui meurt en fonction de la distribution de l'air. Et la privation d'air semble la meilleure façon d'éliminer quelqu'un lorsqu'on menace d'être envoyé « out the airlock », hein, à l'extérieur donc des vaisseaux, ce qui arrive assez souvent. Donc, on ne tue pas avec des lasers dans The Expanse, on tue avec des portes. On envoie les gens à l'extérieur, la plupart du temps en tout cas. Le besoin d'air et le manque d'air sont donc des enjeux récurrents dans la série. Mais encore plus important est sans doute la gravité qui, pour moi, est la force au cœur de toute la série. La gravité est constamment mise en jeu de multiples manières et autant de manière biologique que de manière géopolitique, comme Jérémy l'a mentionné. Donc, tout au long de la série, on nous explique et on nous montre que les humains qui sont nés dans la ceinture d'astéroïdes, donc juste au-delà de Mars, ne se développent pas physiquement pour supporter la gravité terrestre. Leurs muscles, leurs squelettes, leurs poumons sont sous-développés puisque ce sont des organes et des systèmes qui sont apparus au fil de millions d'années grâce aux mécanismes de l'évolution et donc de l'adaptation à l'environnement terrestre. Mais comme ces organes peuvent servir à ou s'adapter à un nouvel environnement dans le cours d'une seule vie, à très courte échéance, à l'échelle de l'évolution. Donc, on est à deux échelles de temps qui sont irréconciliables, d'où la tension, en fait, qu'il y a tant sur le plan narratif que corporel. On sait déjà que les astronautes, d'ailleurs, dans la réalité, dans notre réalité d'aujourd'hui, voient leurs muscles s'atrophier en quelques semaines à peine dans la station spatiale. Alors, une vie entière est encore pour nous difficile à imaginer. La série le fait de beaucoup de manières différentes. Dès le premier épisode, on apprend que les enfants de la ceinture reçoivent des hormones de croissance artificielles ou encore des injections pour augmenter la densité des os. Deux solutions que leur corps rejette parfois d'ailleurs ou au moins leur laisse des cicatrices. On peut d'ailleurs remarquer des traces sur la colonne de Miller au début justement de la série. Donc, il y a des bosses sur sa colonne qui s'est développée de manière problématique. Une autre conséquence du fait que les corps des Belters ne sont pas adaptés à supporter la gravité terrestre est leur incapacité à visiter la Terre. On le voit justement dans la deuxième saison quand la simple gravité est utilisée par le gouvernement pour torturer, comme Jérémy l'évoquait. Mais aussi, ça va plus loin dans la série, cette incapacité-là physiologique à visiter un territoire, ce qui est assez unique quand on y pense dans la culture humaine. Il y a rarement des impossibilités physiologiques à se déplacer sur des territoires qui sont habités par d'autres humains. Donc, ça fait partie de ces universaux du corps humain, en fait. D'ailleurs, je vais y revenir. Donc, ça s'insinue même dans les relations humaines, les relations de couple, puisque Naomi se retrouve incapable de rencontrer ses beaux-parents sur Terre, puisque son corps rejette le traitement pour y pallier. Donc, on a des couples comme ça qui se forment dans l'espace, mais qui ne peuvent plus retourner à leurs racines et donc qui sont complètement coupés de leur histoire familiale. Un autre impact un peu inattendu, du moins rarement exploré en SF, de la vie sans gravité, c'est l'impossibilité de soigner les blessures ouvertes. Dans la saison 3, alors que les vaisseaux ont été stoppés par l'anneau et qu'ils n'ont plus de gravité, des centaines de personnes meurent puisque leur plaie ne peut pas être drainée sans gravité, qui mène à des scènes assez spectaculaires quand même, de catastrophes qu'on a peu vues en fait visuellement. Donc la fragilité de la survie du corps dans l'espace est encore plus frappante dans cette scène. Et la gravité n'est pas qu'une question d'attraction planétaire, mais aussi d'accélération de vaisseau. Je disais que la gravité, elle était partout dans la série, mais elle est aussi dans la façon de voyager. Les vaisseaux accélèrent et décélèrent constamment et très rapidement. Contrairement à la plupart des récits de SF, les enjeux sur les corps nous sont constamment montrés. Certaines manœuvres ne peuvent pas parfois être faites, ce qui a des grandes conséquences dans le récit parce que l'un des personnages ne pourra pas supporter l'accélération, par exemple. Plusieurs en meurent d'ailleurs dans la série. Et on nous montre que certaines adaptations ont été possibles au moment de faire une manœuvre avec beaucoup de G, la mesure d'accélération équivalente à la gravité sur Terre. Donc, même la vitesse des vaisseaux est calculée en fonction de la gravité terrestre. Les personnages se voient injecter un liquide blanc conçu pour aider les corps à le supporter. En fait, ces détails dans la série en font quelque chose d'assez unique. Habituellement, en particulier dans les séries comme Star Trek, les immenses défis que représente la vie et le déplacement dans l'espace des humains sont résolus magiquement off-screen par des supposées technologies jamais expliquées ou ils sont tout simplement ignorés. Dans Star Trek, tout le monde vit comme dans un lounge des années 80 sans aucun problème de gravité et même d'accélération. Le fait de faire des limitations humaines dans l'espace, des véritables obstacles physiques et narratifs, surtout, ça c'est ça encore plus original, à tous les tournants, explique pour moi en partie la qualité de la série et sa valeur contemporaine. Mais la gravité, son absence ou sa surabondance n'a pas que des effets directs sur la simple survie des corps, elle a aussi une importante influence sur la construction de la culture, sur la sémiotisation du monde. Yuri Lotman explique dans La sémiosphère l'importance du corps et de l'environnement dans nos conceptions sémiotiques, dans la construction de nos cultures. Donc, je le cite, les êtres humains sont immergés dans un espace réel, celui que la nature leur a donné. La conscience humaine élabore ses modèles à partir de constantes, telles que la rotation de la Terre, le trajet du soleil à l'horizon, le mouvement des étoiles et le cycle naturel des saisons. Les constantes physiologiques du corps humain ne sont pas moins importantes. Elles prédéterminent certains types de relations avec le monde extérieur. Les dimensions du corps humain confèrent au monde des lois mécaniques son aspect naturel, tandis que l'univers des particules et de l'espace cosmique ne peut être conçu que de manière spéculative, avec le soutien d'un effort mental exceptionnel. La corrélation entre le poids moyen d'un être humain, la force de gravité et la position verticale du corps a produit un concept universel présent dans toutes les cultures humaines, l'opposition du haut et du bas. Il existe nombre de manières d'interpréter cette opposition, religieuse, sociale, politique, morale. L'expression « il a atteint le sommet » qui peut être comprise par chacun, quelle que soit la culture à laquelle il appartienne, semblerait-elle aussi claire à une mouche pensante ou à un homme qui aurait toujours vécu en apesanteur. Donc, fin de ma citation un peu longue, mais je pense qu'il est hyper révélatrice un peu, en fait, qui éclaire très, très bien la série et de l'influence culturelle que peut avoir ces enjeux biologiques-là. Donc, les exemples sont nombreux dans la série, notamment on voit que les Belters vont compter leur âge en années terrestres. Et puis, donc, on a un jeune garçon de 19 ans et puis Dawes, le représentant de l'OPA, lui dit que s'il était sur une autre planète, ben, en fait, ça serait son premier anniversaire qu'il fêterait, si on compterait vraiment son année en termes de révolution dans la ceinture. Et donc, on peut voir que ça a un impact même sur la construction de l'identité, puisque notre conception du temps a un immense impact sur notre identité, évidemment, étant donné qu'on est des êtres mortels. On voit que de nombreuses reprises que le rapport à la gravité explique aussi en bonne partie les différences culturelles et de perception entre les terriens, les martiens et les belters. On l'a déjà un peu dit. Mais est-ce que le haut et le bas veulent encore dire quelque chose dans une ceinture d'astéroïdes? Oui, en fait, mais par importation, on pourrait dire. Les corps ne sont pas encore si différents que le haut signifie quelque chose, parce que les corps sont encore les mêmes. Et la culture terrienne est transposée ou plutôt simulée. Donc, on est vraiment dans une culture de simulation qui va peut-être se construire sur des millénaires, mais on n'en est pas là encore. Donc, finalement, je sais que j'étais un peu longue déjà, mais je vais finir rapidement sur la protomolécule. Donc, je vais passer sur les implants cybernétiques, tout ça, qui sont plus de l'ordre du transhumanisme et qui sont très présents dans la série. Donc, il y a beaucoup d'implants qui permettent de s'adapter, d'adapter les corps aux travaux dans l'espace. Mais ce que la protomolécule nous apporte, c'est plutôt du côté du posthumanisme, ce que Hélène a d'ailleurs déjà évoqué de manière tout à fait pertinente. Donc, la protomolécule n'est pas l'objet de tous les désirs sans raison, donc de toutes les guerres. En fait, elle est au centre de tout dans la série, du moins dans les premières saisons. Elle commence à l'être un peu moins quand même. Parce que selon les scientifiques qui veulent travailler sur elle, donc les scientifiques de Mao, ça va permettre justement d'adapter l'être humain à la vie dans l'espace. Imagine human beings able to live in hard vacuum without a suit or under the crushing atmosphere of a gas giant or able to hibernate long enough to travel to the stars. Donc, on est tout à fait dans exactement les mêmes mots utilisés par Kleins et Klein pour définir le cyborg dès les années 60. Et donc, la protomolécule, qui est d'origine extrasolaire, est d'abord utilisée pour faire ces expériences-là, pour en créer des êtres hybrides post-humains, donc par des personnages qui s'apparentent à des savants fous, sur des enfants humains, entre autres, faire des super soldats, tout ça. Mais éventuellement, on se rend compte que la protomolécule a sa volonté propre et qu'elle crée une espèce d'anneau qui permet de voyager dans l'univers. Et pour moi, c'est là que ça devient tout à fait intéressant parce que là, on pousse la logique beaucoup plus loin, la logique post-humaine encore plus loin. C'est-à-dire que la protomolécule qui a contaminé Julie Mao sur Eros, qui s'est écrasée sur Vénus et donc qui a formé cet anneau, permet donc de faire survivre le corps dans le vide de l'espace de manière encore plus absolue, c'est-à-dire qu'elle lui permet de se libérer complètement de la contrainte du temps long des voyages spatiaux et donc l'ultime fantasme du post-humain.
Oui, absolument. La transformation, donc c'est aussi l'aspect, le novum, au sens de Darko Suvin, le plus fort dans cet univers-là, c'est l'énigmaticité, non seulement de la protomolécule, mais le fait que tout à coup, elle se met à fonctionner par une sorte de déconstruction incarnée. Il y a cette image très frappante où elle décompose totalement le vaisseau qui est venu explorer la surface de Vénus où elle s'était écrasée. Ensuite, cette création du ring, qui d'ailleurs est un hommage assez explicite à une des grandes figures de la science-fiction, donc The Gateway de Frederick Pohl et toute sa saga des Hanshis, qui est un peu reprise avec cette idée qu'il y a différentes civilisations extraterrestres et que celles qu'on croyait déjà comme étant extrêmement avancée, ben finalement, elle était encore moins avancée qu'une autre qu'il a détruite à son tour. Donc, une sorte de projection aussi de cette sorte de guerre des civilisations, de choc des civilisations à une échelle beaucoup plus vaste et cosmique que ce qu'on pensait initialement. Bertrand, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans The Expanse?
Ben, d'une part, en fait, j'ai le goût de mettre mon intervention, qui sera plus en fait le début d'une discussion tous ensemble, sous le symbole de l'ingéniosité. S'il y a quelque chose, moi, qui m'a fasciné avec cette série, c'est d'une certaine façon l'ingéniosité. Et en disant ça, évidemment, vous pouvez tout de suite penser à Ingenuity ou Ingenuity. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Dernièrement, on a assisté en fait au premier vol d'un hélicoptère Scout, un petit hélicoptère sur la planète Mars. Ça s'est passé la semaine dernière, il y a deux semaines, là, je pense que autour du 19 ou 20 avril, on a eu le droit. D'abord, il y avait une photo, il n'y avait pas juste une photo, il y avait une vidéo qui était faite d'un hélicoptère qui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, a volé sur une autre planète, sur la planète Mars. Alors pour moi, il y a là quelque chose de tout à fait fascinant. C'est la première fois dans l'histoire de l'ère spatiale qu'un engin quelconque de fabrication humaine effectue un vol motorisé sur nos planètes. Le nom de cet appareil, Ingenuity, ingéniosité. Et c'est fascinant parce que ça nous... Pour moi, j'étais très fasciné par ce petit événement parce qu'en fait, quand on parle d'un hélicoptère de 2 kilos, des pales, bah, sauf que l'atmosphère martien étant différente d'une autre, évidemment, tout étant relatif, faire voler un appareil apparaissait comme étant extraordinairement complexe. Mais c'est clair que voir voler un hélicoptère sur Mars, c'est le début, évidemment, d'une exploration encore plus importante de cette planète. Très clairement, on s'en va vers la possibilité d'envoyer des êtres humains ou alors d'autres formes, peut-être des cyborgs vers Mars. Et on se retrouve en fait dans le tout début d'un processus de colonisation, dont bien sûr, The Expanse apparaît comme étant l'une des situations possibles, l'une des projections, des anticipations de ce type de colonisation. Et pour venir un peu sur ce que commençait par dire Jérémy sur les ceinturiens, je sais pas, moi j'écoute en anglais, donc c'est les belters, là, donc j'imagine que c'est les ceinturiens. Je me demandais comment ça avait été traduit d'ailleurs en français. J'avais juste les centurions en tête. Alors, on se retrouve avec une situation politique qui est vraiment calquée sur la nôtre, celle dont nous avons hérité au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a en fait un monde divisé en trois. Hein. La Terre, dont le premier monde, Mars, le deuxième monde, un monde plutôt, tout le monde, on va tous travailler ensemble, on est dans un idéal presque communiste. Évidemment, la Terre, elle, ben, c'est le capitalisme et ses débordements et sa capacité, évidemment, à s'autodétruire ou du moins à détruire son propre environnement. Mars qui essaie de construire un nouvel environnement avec un processus de terraformation extraordinaire, devenu très, très évolué au moment où la série commence. Hein. On est, je pense, 150 ans après ou... J'imagine, je ne me souviens plus là. Mais, bref, il y a une terraformation qui est en cours. Et bien sûr, il y a le tiers-monde, hein, il y a les belters, il y a ceux qui sont à la ceinture de cela et qui, bien sûr, représentent tous ces pays hein, dans le monde que nous avons été au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Hein, il y a le premier monde, le deuxième monde et le tiers-monde. Le tiers-monde qui était ces pays où il y avait, bien sûr, des matériaux, des matières premières. Et on voulait aller, évidemment, chercher ces matières premières-là dans ces pays-là qui devenaient, en fait, tiraillés entre le premier et le deuxième monde, entre le monde occidental capitaliste et le monde communiste. Alors, on se retrouve avec exactement ce type de situation-là au début de The Expanse, avec une projection politique, on pourrait presque dire classique, du moins qui a ses assises très fortement dans notre passé récent. Et donc, pour moi, cette ingéniosité-là était aussi au cœur même de la situation qui se développe, avec bien sûr la montée en puissance potentielle de Mars, avec bien sûr les belters qui réussissent à tirer leur épingle du jeu, bien sûr avec l'arrivée bien sûr d'une matière. Alors là, qui n'ont pas une matière ou une matière première qui vient de la ceinture d'astéroïdes, mais bel et bien qui vient de l'extérieur. Donc, qui vient changer, bien sûr, la donne. Donc, pour moi, cette dimension politique-là, bon, par moments, ça finit par être un peu... C'est très lourd, hein, on le voit pendant les 5 saisons où le politique finit même par prendre le dessus sur la protomolécule. Mais en même temps, ça permet, je pense, de voir les tensions qu'il y a entre, d'une part, une matière première nouvelle dont tout le monde peut bénéficier, pensons à l'invention de l'électricité, versus, bien sûr, ces autres matières premières qui sont au cœur même, en fait, d'un développement économique et d'une colonisation du système solaire. Avec, évidemment, la possibilité de sortir du système solaire vient de la protomolécule. Donc, là, évidemment, où la protomolécule fait quelque chose, c'est qu'elle change la donne. Hein, elle vient brasser les cartes. Du moins, elle vient de permettre que les cartes puissent être brassées, puisque ce qu'elle permet, c'est la sortie du système solaire. Et donc, l'ouverture, évidemment, vers d'autres planètes. D'ailleurs, il y aura une autre ceinture qui va apparaître, en fait, qui est le portique ou la porte qui permet, évidemment, de traverser une partie de l'univers pour se retrouver dans un autre monde. Donc, pour moi, cette idée-là de l'ingéniosité, elle est un peu partout dans la série. Hélène Després parlait, bien sûr, de certaines de ces considérations qu'on comprend maintenant comme étant beaucoup plus importantes, à savoir l'absence de gravité, ce que d'autres séries n'avaient pas. Hein. Tu as raison, les Star Trek, la gravité est toujours complète. Les gens parlent toujours la même langue. Il y a un traducteur universel, celui-là, moi, je trouve extraordinaire, un traducteur universel. Dieu est dans une machine, ça s'appelle un traducteur universel. Et donc, il y a des conditions comme ça matérielles. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, et pour faire suite à ce que Hélène Després racontait, c'est-à-dire que l'ajustement aux conditions techniques actuelles et aux connaissances scientifiques actuelles. Et moi, je trouvais que ça allait même jusqu'à, par exemple, les téléphones cellulaires. Moi, ce qui m'a marqué depuis le début de la série, c'est le fait que, ben, comme nous avons tous un téléphone cellulaire à la main. Alors, les leurs, pour montrer qu'on est dans un espace, entre guillemets, évolué, mais ils sont totalement transparents. Hein. C'est l'écran qui est une disparition de l'écran. L'hologramme, c'est l'image qui se tient toute seule. Les téléphones cellulaires qui tiennent à la main, que tout le monde tient à la main, c'est extraordinaire parce que moi, j'ai de la difficulté, j'ai beau avoir la 5G, j'ai de la difficulté à rejoindre mon voisin, mais dans The Expanse, eux, ils peuvent recevoir immédiatement une transmission qui vient de la ceinture d'astéroïdes. Bon, ça, c'est le côté un peu amusant de la chose. Mais quand même, la série nous, On voit très bien qu'ils ont tous un téléphone à la main. Leur téléphone, on le comprend parfaitement, c'est une version évoluée des nôtres, mais ils sont dans la transparence, donc on voit au travers. Mais donc, et il y a comme ça un ajustement constant à un ensemble important de contraintes ou encore de possibilités techniques qui sont les nôtres actuellement et qui sont prises en considération. Pour avoir un peu travaillé sur The Arrival de Villeneuve, on sait quand les êtres humains rentrent dans ces vaisseaux, qui sont non pas comme les vaisseaux spatiaux, notamment dans The Expanse, il y a toujours comme énormément de machinerie à l'extérieur. La science est connotée par les tuyaux, par toutes les prothèses et les orthèses que ces vaisseaux spatiaux peuvent avoir. Là, on a des vaisseaux entièrement lisses, hein, sans aucune possibilité d'aspérité. Et quand les êtres humains, notamment la linguiste, s'y rendent pour interroger, mais ils interrogent les aliens, les heptapodes, par le biais d'une fenêtre d'interrogation qui est le vaste mur transparent qui ressemble bel et bien à une fenêtre d'interrogation comme on a, nous, avec Google. Et donc là, il y a un ajustement dans The Arrival à des conditions techniques qui sont les nôtres actuellement, donc à savoir Internet et les fenêtres d'interrogation. Donc, même chose avec The Expanse, mais avec d'autres niveaux. Et là, moi, ce que je trouve fascinant, et ça nous ramène à Battlestar Galactica, qui pour moi était la grande série. Pour moi, The Expanse ne change pas la donne. C'est Battlestar Galactica qui a changé la donne au début, en 2004 et 2009. Et moi, je trouve que certains des éléments intéressants dans The Expanse croisent des éléments de Battlestar Galactica. Et notamment, et c'est là que je fais référence plutôt maintenant au personnage dont a traité Hélène Machinal, à savoir Miller, l'enquêteur, qui évidemment, après sa mort, est absorbé par la protomolécule et qui se transforme en fait en être imaginaire. Donc, évidemment, ce sont tous des êtres imaginaires à partir d'une fiction, mais à l'intérieur même de la fiction, il y a un deuxième niveau d'imagination ou d'existence imaginaire et Miller devient en fait un personnage imaginaire que simplement que Holden voit. Et ce personnage-là devient tout à fait, moi qui travaille sur la façon dont les processus figuraux se déploient, c'est bel et bien se construit comme une figure. Mais pour moi, cette figure-là, je la trouve extraordinaire, et on pourra en parler un peu avec Hélène dans quelques instants. Pour moi, elle est tout à fait à l'image de Number Six dans Battlestar Galactica, donc ce robot hyper évolué qui était joué par Tricia Helfner, je crois, forme extraordinairement évoluée et qui, dès sa mort, en fait, elle meurt, en tout cas, ce numéro 6-là, parce qu'évidemment, c'est un robot, donc il est fait pour être reproduit, mais ce numéro-là, en fait, dès le premier épisode de la série, se transforme en être imaginaire, c'est-à-dire qu'il est totalement dans la tête de Balthazar. Le savant fou qui détruit le monde, évidemment, ça nous prend toujours un savant fou. Et dès cet instant, et pour moi, ça devient fascinant dans Battlestar Galactica, ben, il y a des gens qui interagissent les uns avec les autres, et bien, il y en a qui interagissent avec des personnages imaginaires qui sont simplement dans leur tête et qui sont projetés, bien sûr, sur la scène, à l'écran. Alors, pour moi, numéro 6 et Miller jouent le même rôle. D'ailleurs, Miller passe de enquêteur d'une certaine à guide. Hein. L'enquêteur, c'est celui qui cherche la vérité. Le guide, c'est celui qui connaît déjà la vérité. C'est celui qui participe déjà de la vérité et qui donc permet de conduire, vient et conduit, dans ce cas-ci, Holden et l'humanité, mais conduit Holden et l'humanité à une meilleure connaissance de la protomolécule et de l'univers dont dépend, bien sûr, la protomolécule. Alors, pour moi, Miller est moins juste un hologramme ou une expression technique quelconque, qu'une représentation imaginaire d'un savoir qui est de l'ordre de l'obsession pour Holden, parce que justement, lui, il est totalement obsédé par Miller. Il cherche Miller partout. Quand Miller n'est pas là, il est totalement en manque, de la même façon que Balthazar dans Battlestar Galactica était lui-même en manque dès quand numéro 6 disparaissait ou ne réapparaissait pas. Et donc, oui, il y a les dimensions techniques, et je pense que Hélène Després le montre très bien, que l'être humain est au cœur même de cette fiction, mais non seulement l'être humain, mais aussi la capacité qu'a l'être humain d'imaginer d'autres êtres et même d'entrer en relation avec des êtres imaginaires. Donc, on a vraiment un spectre complet qui est comme ça, au moins, établi.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il est particulièrement intéressant en tant que personnage de ce point de vue et peut-être en termes de représentation des capacités de l'imaginaire, hein, plus généralement, même s'il est aussi parfois appelé « the ghost », ce qui le dématérialise d'une autre façon en tout cas. Mais moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans le personnage, c'est les différentes déclinaisons du personnage. C'est-à-dire que il est plusieurs entités, il évolue sous forme de plusieurs entités et il permet aussi de problématiser ce qui est souvent au cœur du post-humain, c'est-à-dire la représentation d'entités qui sont uniquement du côté de l'esprit, uniquement du côté du corps. Le fait qu'il se réincarne dans une espèce de d'entité machinique dans la saison 4. Et j'ai trouvé que ça, c'était particulièrement ingénieux, pour reprendre le terme que tu as développé, Bertrand, c'est-à-dire de lui redonner finalement un ancrage via la figure du cyborg, d'une certaine façon, avec un corps totalement mécanique. Mais c'est vrai qu'il fait aussi figure de guide, mais en même temps d'un guide qui reste aussi... très ambigu, c'est-à-dire on sait qu'il est par moments contrôlé par l'entité protomolécule et qu'à d'autres moments, il arrive à s'en détacher. Et on ne sait toujours pas, au terme de la saison 5, exactement comment ce processus peut s'opérer, parce que les autres personnages qu'on a vus sous contrôle de la protomolécule avant lui n'ont jamais réussi à acquérir une quelconque autonomie et à se libérer de ce contrôle de la protomolécule. Mais ça, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle c'est un personnage central et qui participe de l'arc macro pour l'instant.
Oui, et c'est aussi une figure doublement sacrificielle, puisqu'il se sacrifie une première fois sur Eros pour infléchir littéralement le sens, la trajectoire de la station qui allait vers la Terre, avec déjà une sorte de symbiose qui elle-même était déjà étrange entre Julie Mao et la protomolécule. Et il se sacrifie donc une deuxième fois par rapport à l'épisode donc où ils sont déjà dans le ring.
C'est vraiment une figure sacrificielle, Antonio, au sens où ces sacrifices-là sont vraiment des sacrifices, si on reprend la rhétorique de René Girard, qui vont viser à refonder la communauté. L'idée, c'est que la portée de son sacrifice, elle est collective, et qu'elle dépasse les enjeux et les rivalités politiques entre les différentes entités qui cherchent à assurer leur pouvoir.
Oui, et le sens du contrôle n'est pas très clair non plus. Qu'est-ce que recherche, puisqu'on comprend que la protomolécule est faite par les builders, donc les constructeurs, ceux qu'ils appellent les constructeurs, qui eux ont soi-disant disparu. Alors, quel est le sens de cette volonté qu'a la protomolécule, que semble avoir la protomolécule, dans une sorte de quête de ses propres origines, puisque il est suggéré que la fonction qui est en train de pousser Miller, c'est de découvrir qu'est-ce qui a détruit la civilisation dont il est lui-même maintenant issu. Donc, il y a là aussi une sorte de paradoxe temporel dont la science-fiction, évidemment, est friande, mais qui, pour l'instant aussi, reste très peu établi, ce rapport. Et donc, avec cette idée qu'on nous dévoile progressivement, c'est un des grands atouts de la série, encore une fois quelque chose qui était aussi très bien maîtrisé chez Martin, c'est cette idée d'un dévoilement progressif des enjeux, et ce qui nous semblait premier dans les premiers épisodes finalement devient secondaire par rapport à cet univers en expansion. Hélène, tu voulais prendre la parole?
En réagissant à Hélène et Bertrand, je pense que Miller est une figure hyper polysémique, ce qui la rend hyper intéressante. Donc, je suis absolument d'accord avec ce qu'Hélène disait. Mais j'aime bien l'idée de la figure de l'obsession que Bertrand évoque. Je pense que c'est juste une partie du personnage, mais cet aspect-là du personnage, ce que je trouve, parce qu'effectivement, je trouve qu'il évoque vraiment numéro 6 dans BSG dans ce sens-là, mais il nous ramène aussi à l'intertexte avec Don Quichotte, en fait, dans la série, qui est un peu partout, en fait, dès le début. Le premier épisode s'appelle Dulcinea, le vaisseau s'appelle Rocinante, c'est le roman qui de jeunesse que lisait Holden, et puis je pense qu'il y a cette espèce d'idée-là aussi des moulins à vent dans la série. T'as l'impression que cette obsession-là, elle tourne un peu, elle n'est pas à vide, mais presque. C'est-à-dire qu'on a l'impression que que Holden, en particulier avec son équipage, mais se retrouve à combattre constamment des nouveaux moulins à vent qui finit par toujours y échapper de justesse, mais vraiment par la peau des dents à chaque fois. Et puis, mais qu'il n'a jamais gagné rien, en fait. À chaque fois, il y a une nouvelle bataille qui suit la précédente, puis il y a cette figure-là de l'obsession qui est intéressante. Bertrand, tu voulais réagir à ça?
Oui, ben, en fait, c'est, ben, parce que tu es revenu sur Don Quichotte, donc, qui est quand même très, très présent. Et ça explique un peu, parce que Holden, quels sont les objectifs d'Holden exactement? On le comprend. Alors, c'est une figure christique. Alors, il y a celui qui va se sacrifier, qui est Miller, mais Holden aussi est constamment sur le mode du sacrifice. Il ne fait que... Et on se demande... Très souvent, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il recherche exactement? Là? Il refuse le rôle qu'on lui assigne et en même temps, il ne cesse de l'actualiser et de l'amener en fait à une nouvelle dimension. Et donc, dans ce sens-là, en effet, il y a le point de départ qui est le chevalier sans cœur, qui n'a peur de rien, sans bel et puis en même temps, celui qui s'invente des histoires complètement. Par contre, il n'a pas tendance vraiment à s'inventer des histoires. Mais juste un peu revenir aussi sur Miller, c'est quand même assez fascinant de comment cette figure de l'enquêteur va se transformer dans la série, mais aussi comment cette figure-là devient très, très importante dans les SF. Je pense à Altered Carbon, où là encore, il y a un enquêteur. Certains des romans de Gibson tournent autour, évidemment, d'une figure d'un enquêteur. Donc, constamment, l'enquêteur, entre autres, les grandes ficelles du roman noir se retrouvent en fait, dans un contexte complètement différent que celui de la SF et qui permet de redynamiser par hybridation, mais redynamiser une forme.
Depuis Blade Runner. Hein?
Et en plus, comme vous le disiez tantôt, toutes les deux, c'est la série, en fait, ou c'est Antonio, je pense, la série ne reste pas sur ses rails. La série, en fait, décide de, OK, on met pas de côté, mais on met un peu par... On atténue le rapport à la protomolécule, on augmente le rapport aux enjeux politiques. Constamment, la série est en train de rejouer, de rebrasser ses cartes d'une année à l'autre. Et ça, je trouve que ça le fait d'une façon extraordinairement forte parce qu'au lieu d'être cantonné un peu à la Star Trek, c'est toujours la même histoire qu'on raconte, c'est toujours le même univers et puis ça tourne en rond. Star Wars, c'est la même chose. Tandis que là, au moins, ben, d'une année à l'autre, ben, il y a des étapes qu'on franchit. Et on va vers... Ça fait penser à la vieille série des fondations d'Asimov, là, ou encore même à Dune de Frank Herbert, là, dans l'espèce de portée très, très large, et le fait que le point de départ est aux antipodes du point d'arrivée, disons-le comme ça, c'est-à-dire qu'on a franchi des dimensions d'une étape à l'autre.
D'ailleurs, la saison 5 est totalement dans cette logique-là. Moi, je l'ai... Tu sais, il y a beaucoup de monde qui l'ont détester. Moi, j'étais assez divisée, c'est-à-dire qu'en l'écoutant, j'étais irritée, mais finalement, je l'ai quand même écouté dans rafale très, très rapidement. Donc, je me dis que j'ai dû y trouver mon compte malgré tout. Mais c'est surtout que pour moi, c'est une bottle season, ce que j'avais jamais vu en série télé. Je veux dire, il y a des bottle d'épisodes souvent, mais là, on a une saison complète qui est en bouteille, qui ressemble à du remplissage, mais qu'en fait, est une expérience. On sent que c'est un peu une expérience narrative de OK, qu'est-ce qui arriverait si on séparait tous nos personnages, puis ils seraient tous en mode survie, chacun de leur côté, pendant une saison complète, puis qu'on mettait de côté tous nos enjeux autrement, ou en tout cas, on les aborde à peine, ils sont abordés quand même.
Ça dépend en fait d'un crescendo, parce qu'à la fin, on revient quand même.
Oui, on sent que c'est pour y revenir. Oui, on sent. C'est pour ça que je dis que c'est un bottle season, que c'est pas le but, c'est pas que ça soit la fin de la série, mais que ça soit comme en attendant que les enjeux reviennent en force dans la saison suivante, qui sont comme annoncés. Puis un autre truc que je voulais aborder, qui rebondit sur ce que Bertrand disait, puis sur Jérémy aussi, peut-être qu'il pourra réfléchir à ça aussi, c'est ce que tu parlais que c'était dans l'imaginaire de la guerre froide, du monde en trois parties, tout ça, puis je suis 100% d'accord, puis tu sais, la science-fiction, honnêtement, c'est souvent la guerre froide, l'analogie première qu'on a, mais ce que je trouve intéressant, c'est que les space opéras en général, plus spécifiquement les space opéras que d'autres types de science-fiction, probablement grâce à Asimov puis à Campbell en particulier, c'est toujours des analogies historiques, c'est toujours des analogies politiques, historiques. Donc, on est toujours en train de chercher de quoi on parle, parce que, je veux dire, on crée un monde de toutes pièces qui est des tensions politiques, des factions, tout ça. Ben, forcément, ça évoque des épisodes de l'histoire de l'humanité. Je veux dire, on n'invente pas ça de rien, forcément. Puis on va toujours chercher le plus proche. Puis je pense que dans la série, c'est tout à fait vrai. C'est même le plus évident. Mais tu sais, je pense qu'il y a aussi l'époque de la colonisation qui est là. C'est-à-dire qu'on a aussi les États-Unis, l'Angleterre, puis les Caraïbes. Donc, on a vraiment l'impression... Parce qu'en plus, je trouve que le créole des Belters évoque beaucoup cette idée-là des Caraïbes. Puis en plus, c'est des îles, donc on est vraiment dans l'idée de l'insularité. Les États-Unis, on a vraiment l'impression qu'ils sont en train de, justement, terraformer le territoire américain, c'est-à-dire le transformer en États-Unis d'Amérique, alors que l'Angleterre est un peu pris dans ses contradictions, pris dans ses vieilles guerres. Donc, je me demande si le space opéra nous permet pas, justement, de manière plus générale, le space opéra et les dystopies, je pense que j'aime mieux que tu travailles les deux, puis je pense que dans cette série-là, c'est là que ça se joue peut-être le mieux d'ailleurs. Est-ce que c'est pas justement une façon de réfléchir aux universaux, justement, donc de voir des tendances plus larges dans l'histoire, puis voir des correspondances? Je pense que la série nous permet de réfléchir à ces deux choses-là en même temps, ce qui est assez rare, en fait, parce que ça nous permet de nous éloigner de la réalité concrète de l'actualité, puis ça nous permet de mettre face à face différentes époques puis différentes tensions, puis montrer que c'est les mêmes mécanismes qui sont en jeu, en fait.
Oui, il y a la philosophie de l'histoire et il y a une influence très claire, par exemple, de Toynbee, notamment dans la figure de Marco, puisque Marco, qui est intéressant dans le sens où c'est clairement une figure de vilain, etc., c'est toute cette partie sur l'OPA qui est très calqué sur l'OPL, donc même dans son acronyme, et donc surtout les enjeux très complexes d'un territoire comme la Palestine, mais donc avec cette ambiguïté entre qu'est-ce qu'un héros, qu'est-ce qu'un terroriste, Freedom Fighter. Je me rappelle qu'une des premières choses qui m'avait frappé lors d'un voyage en Afrique au lendemain du 11 septembre, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de stickers sur les voitures avec la tête de Osama Ben Laden et c'était écrit « Not a terrorist, a freedom fighter ». Et ça, c'était assez fort parce que on voyait jamais ça ni en Espagne, ni en France, ni ailleurs. Et Marco incarne très bien ça, et lui, il incarne une des lois de Toynbee, c'est justement la loi des défis technologiques des sociétés. C'est que lui, par rapport au ring, il a compris que finalement, si tout le monde part, le belt n'aura plus aucun sens, puisque les ressources du belt, elles sont tout de suite d'une façon très socio-économique, presque marxiste, elles sont complètement dévaluées pouvoir d'échange. Et donc, en fait, les gens vont partir dans des territoires qui sont beaucoup plus faciles à exploiter. Toute la fonction de ces gens-là qui, comme tu le disais, Jérémy, sont physiquement ancrés d'une façon déterministe à leur environnement, ils vont se retrouver privés complètement de sens dans ce nouvel univers. Donc, pour lui, la logique, c'est d'attaquer. Dans la série, c'est la Terre, mais dans le roman, dans le cinquième roman, il attaque aussi Mars, puisqu'au fond, tout en s'entendant avec une faction militaire de Mars et tout ça, mais il fait une double attaque et pour se garantir un rôle dans ce nouveau monde. Et c'est lui qui veut fermer, sceller le ring et créer, donc léguer à cette faction militaire martienne l'autre côté et garder le contrôle sur son système. Donc là, il y a vraiment une illustration des thèses de Toynbee sur les grands défis technologiques et le fait que les civilisations qui réussissent à s'adapter à ces défis-là prennent le contrôle sur un moment d'hégémonie, etc.
Je reviens juste rapidement sur ce que tu viens de dire et notamment l'idée de qui est vraiment un terroriste. Pour moi, c'est une idée centrale dans la série et elle est posée en fait dès le premier épisode, justement où on voit Kris Jenne sur Terre interroger un membre de l'OPA et qui l'accuse directement d'être terroriste. Sauf que la première vision du spectateur, c'est la vision de cette femme, de cette responsable qui torture littéralement un homme qui, en plus, du coup, visuellement, semble affaibli parce que c'est la première confrontation du spectateur visuel avec le corps d'un ceinturien. Et du coup, c'est vrai qu'il y a tout de suite cette question de savoir qu'est-ce qu'un terroriste? Est-ce vraiment un terroriste? Et qui, entre guillemets, c'est un peu bateau comme phrase, mais qui est le grand méchant? Parce que je pense que la plupart des gens, quand on plonge dans un nouvel univers fictionnel, on essaye de baliser des choses en se disant qui, entre guillemets, est peut-être le plus méchant. Donc, il y a ça. Et puis, je voulais juste aussi revenir sur ce que tu disais, Hélène. Je suis absolument d'accord sur le lien entre space opera et dystopie, et notamment, en fait, juste présenter à chaque fois un peu des réécritures de notre histoire, ou du moins tenter de répondre aux questions « et si telle chose s'était passée ?» Et en fait, c'est ce qu'on retrouve, pour moi personnellement, je trouve que c'est ce qu'on retrouve notamment dans les trois premières saisons, où malgré l'arrivée de cette entité nouvelle et inconnue qu'est la protomolécule, et qui représente quand même un grand danger dans l'univers de la série, les enjeux politiques et la menace d'une guerre interplanétaire, elle est placée au même niveau. Et en fait, au final, c'est à chaque fois, moi je l'ai ressenti comme ça, c'est à chaque fois la protomolécule qui ralentit le conflit, dans le sens où à chaque nouvelle saison, on apprend quelque chose de nouveau sur la protomolécule, ce qui fait que en fait, le conflit entre guillemets entre la Terre et Mars s'apaise un tout petit peu pour se reconcentrer là-dessus, et après ça repart. Et donc, en fait, il y a toujours cette tension-là. Et puis, je trouve que ton parallèle aussi avec la colonisation, les États-Unis, l'Angleterre et les Caraïbes est d'autant plus vrai qu'on voit que dans la saison 4, malgré tous les événements qui se passent, on va dire, il y a encore un conflit entre les trois entités pour savoir qui sera le premier colonisateur de ces nouvelles planètes et qui passera en premier à travers l'anneau. Etc. Donc oui, je suis absolument d'accord avec tout ce qui a été dit.
Oui, les extensions aussi, l'aspect que tu évoquais, Hélène, de la stratigraphie, non, des temps, des temporalités dans le space opera est une des caractéristiques, comme d'ailleurs dans la fantasy, mais d'une autre façon, fantasy plutôt en leur projetant vers une sorte de passé ou de hors-temps, et la science-fiction, les space opera, l'intégrant plutôt dans un schéma évolutif de projection. Mais on reconnaît, dans Star Wars, on reconnaît tout ce qui vient de la République de Rome qui devient l'Empire, l'orientalisme, etc., etc. Et ici, c'est vrai que, comme le signalait Bertrand, on est dans quelque chose qui semble plus immédiat. On est à la fois par rapport à l'échelle généralement multiséculaire des space opera, on est dans quelque chose qui semble un futur plus rapproché. On n'est pas dans le futur immédiat comme Black Mirror, mais on est dans une sorte de futur qu'on peut quelque part commencer à deviner si on essaye de se projeter, disons, dans 500 ans. Quelque chose comme ça, qu'on peut quelque part, un exercice, non, par rapport à notre chronologie actuelle de l'histoire occidentale, on est capable de se dire, bon, dans 500 ans, qu'est-ce qui peut se passer? Au-delà de là, ça devient vraiment beaucoup plus compliqué. Mais donc, l'idée, c'est qu'on est dans un univers qui ressemble à un univers en mutation. On est en plein, c'est 2011, Leviathan Wakes, donc Leviathan s'éveille, premier roman. On est à la fois sous l'impact du 11 septembre, qui est très clair dans toute la fiction populaire américaine, comme vous l'avez d'ailleurs, vous étudiez beaucoup Bertrand et Hélène avec votre groupe de recherche consacrée à l'imaginaire du 11 septembre. Donc il y a à la fois l'attentat contre Bashar al-Assad, mais il y a aussi tout cet univers un peu, qui d'ailleurs avait relancé Battlestar Galactica, puisque c'était vraiment ce qui avait comme remotivé le remake et la réimagination de Battlestar Galactica. Il y a ça, il y a évidemment Mars la Rouge, qui avait eu une longue tradition dans la SF des années 50-60 par chromatisme pur avec l'Empire soviétique, mais qui ici devient, c'est vrai, quelque chose d'un peu plus complexe. Et le parallélisme avec l'Amérique face à l'Angleterre, elle est souvent là dans la culture populaire. C'est quelque chose, parce que c'est fondateur de l'imaginaire états-unien. Et c'est vrai que cette idée que les États-Unis se sont imaginés toujours comme une colonie qui est devenue indépendante et qui a été selon leur idéologie, donc par rapport à la doctrine Monroe, etc., sorte de pilier de la guerre contre les colonies et d'émancipation, le free world, et toute cette rhétorique-là, paradoxalement, au moment où l'Amérique devenait un empire, et c'est ça tout le paradoxe, puisque dès qu'ils commencent à formuler la doctrine Monroe à Cuba, etc., contre l'Espagne, au fond, ils sont en train de prendre le contrôle sur Cuba et Philippines. Donc, ce double mouvement, non, de défendre la liberté, mais en même temps de faire avancer leur impérialisme, c'est aussi la contradiction qu'incarne Abbas Alala, qui se présente comme une défense, comme la défensrice de la paix, et qui commence par une scène de torture. Donc là, on est en plein war on terror, on est dans tout ça. Donc, on a beaucoup de choses qui sont très ancrées dans cette sorte de monde multipolaire. D'après la chute du mur, ce monde un peu paranoïaque d'après le 11 septembre, mais aussi ce monde finalement d'une globalisation très incertaine. Et d'ailleurs, un des éléments qu'on n'a pas encore évoqué, mais la protomolécule, c'est aussi le virus. Et justement, bon, là, on est dans une réunion Zoom à cause d'un virus qui pourrit un peu nos vies. Et la protomolécule, oui, elle se présente comme quelque chose qui peut transformer, évidemment, les enjeux géopolitiques, elle se présente comme un défi à la compréhension des scientifiques, mais elle se présente aussi pour les corps, pour reprendre donc l'importance du corporel que tu signales, Hélène, dans la série, elle se présente avant tout comme une menace pour les corps humains, une reconfiguration, et au début d'ailleurs, c'est vraiment une figure du body horror, de l'horreur, qui est un autre ingrédient dans la série. On n'a pas parlé des calibans, par exemple, qui sont ces monstres, d'ailleurs, référence shakespearienne, qui vient des colonies et qui vient des Caraïbes, puisque c'était les Caribes, traduit en anglais, faussement traduit, mauvaise traduction, qui donne lieu à la formule employée par Shakespeare. Et donc, ces Calibans, qui sont des enfants soldats, littéralement monstrifiés. Donc là encore, l'imaginaire un peu du tiers-monde, mais mélangé avec cet imaginaire du colonial et du post-colonial, d'autant qu'un des grands textes post-coloniaux, c'est Cursing in Tongues de Stephen Greenblatt, une analyse de Caliban, et c'est un des textes pionniers de l'étude post-coloniale, etc. Donc c'est vrai que ce qu'on a dans The Expanse, c'est à la fois ce futur à moyen terme, c'est à la fois ce présent qui devient très vague et très opaque dans une sorte de paradigme qui n'est pas tant du nouvel ordre mondial, mais du nouveau désordre mondial dans lequel l'Amérique se voit un peu plongée au tournant donc des années 2000-2010. Et tout ça donc résonne de façon intéressante, parfois contradictoire, comme c'est le propre aussi dans les fictions pop. Ce ne sont pas des fictions à thèse, en tout cas pas les bonnes, et donc il y a tous ces aspects-là. Alors, je ne sais pas si vous voulez...
Ben, je trouve que le 11 septembre est là partout, justement. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'était dans Battle Star Galactica, on le voyait avec les photos qui étaient posées sur les murs. Ben, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a la même chose qui est refait après l'attaque de Ganymède. On voit toutes les photos des disparus qui sont envoyées avec les téléphones transparents en plus. Là. Donc, les photos des... Ouais, comme ça, puis là, les photos ça apparaissent sur le mur. Puis, j'ai eu l'impression que presque toutes les attaques, parce qu'il y en a constamment des attaques, parce que comme tu dis, on est toujours dans une mise en chaos du monde, ben, quasiment toutes les attaques sont jouées comme le 11 septembre. On est toujours on est en train d'envoyer des projectiles, des avions, des trucs sur la Terre, sur les stations. Mais après ça, le chaos qu'on voit même dans Eros, même l'attaque, même Eros qui est pourtant juste une qui n'est pas une attaque justement de l'extérieur, qui est une attaque de l'intérieur, qui est une contamination, mais le chaos à l'intérieur, les gens qui courent, qui essaient de trouver les passages dans les bons corridors, dans les bons souterrains pour s'en sortir. On a vraiment l'impression qu'on joue constamment ces images-là du 11 septembre. En fait, on a l'impression que c'est une série qui rejoue le chaos qui a suivi le 11 septembre, c'est constamment.
Tout à fait, puis c'est ça la stratigraphie. Je pense que ce serait intéressant d'étudier l'histoire du space opera et l'histoire de la fantasy à travers ces stratigraphies, c'est-à-dire qu'est-ce que convoque à chaque époque Parce que c'est tout un imaginaire temporel qui est à chaque fois invoqué, l'imaginaire temporel de le régime d'historicité, pour reprendre le terme de Hartog, chez Asimov dans les années 40, quand il fonde Fondation, justement, n'est plus le même. Et on se situe dans une généalogie, comme tu le cites, comme vous le disiez tantôt, mais à chaque fois, les strates temporelles qui sont évoquées ne sont pas les mêmes. Et ici, on a quelque chose qui ne regarde pas du tout du côté de l'Antiquité, comme ça pouvait être le cas dans Star Wars ou dans Fondation, qui était très marqué par les thèses de Gibbon sur la crise de l'Empire romain, etc. Ici, on est vraiment plus dans l'idée qu'on est dans un monde d'une après-guerre froide où on ne sait plus trop quel est le sens des allégeances, etc. Et dans cette Mars en terraformation, on peut projeter, comme on a toujours fait sur Mars, un peu tous les fantasmes et d'altérité. Mais est-ce que c'est la Russie post-soviétique? Est-ce que c'est la Chine? Est-ce que c'est et c'est tout et rien de tout cela. C'est vraiment le mélange de ces choses qui donne la force de projection pour le sense of wonder, pour l'idée que justement on est aussi dans une défamiliarisation. Donc et si on était trop proche, c'est toujours ce jeu-là ambivalent. Si on est trop proche, ben on devient un peu de la propagande ou ce qui a été un peu l'erreur d'une certaine science-fiction de guerre froide à un moment donné. Et au contraire, quand on multiplie la polysémie, ben on ouvre la possibilité justement de voir le monde autrement. Donc, merci Bertrand, merci Hélène, merci Hélène et merci Jérémy. Merci tous ceux et celles qui nous ont écoutés. Nous nous retrouvons bientôt pour un autre épisode de Pop en Stock. Merci.